que le banquet commence.
Eh ben allons-y ! Ouais !
Salut mes petits amis du 21e siècle.
Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous ?
Puisque je suis obligée d'être là, j'espère qu'on va devenir amis et...
Votre âme, s'il vous plaît.
Dracarys.
You are a nerd.
Ouais, c'est pas faux.
Nom de Dieu !
Écoutez Sonia et Elodie
dans l'émission Loading
sur Radio Campus 3.
Oupinesse.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi, c'est en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et je suis avec Elodie. Bonjour Elodie.
Bonjour Sonia.
Comment ça va?
J'ai retrouvé toute ma voix.
Oh, ça y est.
Oui, ça y est.
Eh bien, dis-nous tout, qu'avons-nous au sommaire de cette émission?
Eh bien, on va commencer avec les sorties jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de plateau pour enchaîner ensuite sur un forum replay. On parlera également de bande dessinée et puis de l'actualité cinéma, série avec notre petite rubrique... qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Que sont-ils devenus?
Oui, c'est ça. Qu'est-il devenu cet acteur d'une série des années 2000?
Et on finira avec une série qui fait peur, voilà.
Qui fait peur?
Sur un tueur en série.
Ah d'accord, ok. Ça va être gay pour finir.
Oui.
Eh ben, c'est parti. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 11 avril de Sherlock Holmes The Awakened, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. C'est développé et édité par Frogwares. C'est un jeu d'aventure énigme, remake de Sherlock Holmes La Nuit des Sacrifiés, paru en 2006. Vivez une aventure lovecraftienne qui mettra vos nerfs à rude épreuve. Incarnez Sherlock Holmes et plongez au cœur du mythe de Cthulhu, tout en enquêtant sur une série de disparitions mystérieuses en Europe et aux États-Unis. Affrontez des horreurs et luttez contre la folie qui vous guette alors que vous cherchez les réponses à des questions tout simplement inexplicables. Trouvez des indices qui vous mèneront dans des lieux variés. Baker Street à Londres, un institut psychiatrique lugubre en Suisse, les dangereux marécages de la Louisiane et bien d'autres encore. Sherlock Holmes The Awakened, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. La sortie le 11 avril de Tron Identity sur PC et Switch, c'est développé et édité par Beetle Games. C'est un jeu d'aventure roman graphique dans la nouvelle grille, oublié par son créateur et condamné à évoluer seul sans l'intervention d'un concepteur. Un crime sans précédent a été commis. Le dépôt se dresse au cœur de cette société. Une intrusion a eu lieu et c'est tout l'avenir de cette grille qui est en jeu. Le joueur suit Query, un programme détective chargé de découvrir ce qui a été volé et par qui. Projeté dans un monde aux fondations instables, empli de connaissances gardées secrètes, il vous revient d'interroger les suspects et de sonder ce qui vous entoure pour découvrir la vérité. Vos décisions influenceront directement l'histoire et mèneront à une multitude de résultats possibles, bons comme mauvais. Tron Identity, c'est disponible sur PC et Switch. Et enfin, la sortie le 14 avril de Mega Man Battle Network Legacy Collection, disponible sur PC, PS4 et Switch. C'est développé et édité par Capcom, c'est un jeu d'action RPG, compilation regroupant 10 jeux Mega Man au total, dont Mega Man Battle Network, Battle Network 2, Battle Network 3 White, Blue, Battle Network 4 Red Sun et Blue Moon, mais aussi Battle Network 5 Team Protoman, Team Colonel, Battle Network 6 Seabeast Gregar et le Seabeast Falzar. Le jeu propose des filtres graphiques et du contenu additionnel bonus. De plus, le jeu en ligne est pris en charge. Mega Man Battle Network Legacy Collection, c'est disponible sur PC, PS4 et Switch. Voilà pour l'actu jeux vidéo. On passe à la musique et ensuite tu nous parles d'un jeu.
Oui, d'un jeu de plateau, un peu jeu de casse-tête aussi en même temps. Tu verras, c'est un peu particulier, un concept particulier.
Ok. On écoute Nickelback avec How You Remind Me et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles d'un jeu particulier.
Oui, qui s'appelle Boulette. Balle en anglais. Donc ça se joue de 1 à 4 joueurs, c'est à partir de 14 ans, parce que c'est un peu compliqué quand même. Enfin, un peu compliqué, non, mais il y a de la rapidité, il faut vite réfléchir, quoi. Le jeu dure environ moins de 30 minutes. Donc c'est un jeu de puzzle et de combat au rythme effréné. Il va falloir esquiver les balles qui arrivent tout en créant des motifs et en envoyant des projectiles vers vos adversaires. Donc vous allez incarner une héroïne et défendre la Terre face aux puissances du mal. Donc vous allez en fait avoir un plateau de jeu. En fait, chacun va avoir un plateau de jeu devant soi. On a chacun des pouvoirs particuliers. Et vous allez effectivement piocher un certain nombre de balles dans votre sac. Enfin non, d'ailleurs, il va falloir vider toutes les balles de votre sac. Donc on commence avec un certain nombre au début, puis après ça va aller en s'augmentant. En augmentant, vous allez poser donc ces balles devant vous. Sur votre plateau, il y a un certain nombre de couleurs. Les balles ont aussi un certain nombre de points. Donc généralement, si c'est marqué 2 dessus, vous allez faire 1, 2, voilà, pour le descendre au fur et à mesure plus bas. Mais le problème, c'est que si ça arrive tout en bas, ça va vous toucher. Et que si vous êtes touché, je crois que c'est au bout de 3 ou 4 fois, vous êtes mort. Donc le but du jeu, ça va être de vider votre grille de balles. Et donc pour ça, vous avez différentes choses que vous avez le droit de faire, un certain nombre d'actions, pour pouvoir déplacer ces balles et réaliser en fait des motifs que vous allez également tirer. Et quand vous allez réaliser ces motifs-là, vous allez pouvoir, ces balles-là, les mettre de côté pour les donner à votre adversaire pour le prochain tour. Donc du coup, c'est ça le côté un peu puzzle, c'est qu'il va falloir, sur votre plateau de jeu, vous allez donc tirer les balles de votre sac et essayer de faire les formes qui sont notées sur les différents petits carrés. Peu importe les couleurs, mais vous avez généralement des formes bien définies. C'est vraiment pas évident, surtout qu'il y a un timer. Donc vous avez une petite application à télécharger sur le téléphone avec une petite musique. Donc voilà, ça vous dit quand est-ce que c'est fini. Vous pouvez avoir fini avant les autres. Dans ce cas-là, c'est quand vous avez vidé tout votre sac. Et là, vous allez pouvoir choisir des petits bonus en plus. Et puis après, on recommence. C'est-à-dire que toutes les balles que votre voisin vous a données, vous les mettez dans votre sac. Et puis, il faut piocher un certain nombre de balles en plus. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il y a beaucoup de balles qui sont dans le jeu. Et puis, quand il y a des joueurs qui meurent, toutes les balles vont au voisin. Donc, ça vous fait vraiment beaucoup. Donc, il faut essayer de piocher les balles dans votre sac, faire les motifs. Et puis, le truc aussi, c'est que à la fin du temps, vous allez devoir les balles qui restent dans votre sac les mettre sur votre plateau, donc très vite on peut en fait mourir. Donc vous allez avoir différentes héroïnes que vous allez pouvoir incarner. Il y a un petit côté manga dans les dessins des héroïnes. Il y a différents modes de jeu. Donc moi j'ai joué au Battle Royale, donc chacun pour soi. Il y a un mode solo. Il y a un mode en équipe et puis un autre mode en coopération où vous allez affronter 8 boss du jeu. Donc en plus, c'est un jeu qui permet d'être pas mal rejoué avec ses différents modes. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très sympathique. Pas évident parce que les motifs sont pas évidents à repérer. En fait, il y a des petits symboles pour signifier les cases vides, les cases pleines. Et avec le timer, en fait, c'est compliqué.
D'accord.
De faire les puzzles. Mais j'aimerais bien y rejouer maintenant que je vois un peu comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment trouvé ça original, ce côté où on embête un petit peu les adversaires, mais on joue quand même beaucoup avec son propre plateau à soi. Et finalement, c'est une résolution de puzzle, toute la partie. Donc ça s'appelle Bullet.
Bullet. Ok, merci Elodie. On repasse à la musique. On écoute Beyrouth avec The Peacock. Et après, on parlera de Forum Roleplay. À tout de suite. On passe maintenant au forum roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum qui s'appelle Garbage City. Un monde rempli de suspense, d'extraterrestres et d'humains. Ça se passe à Breckenridge, dans le Colorado. Et les habitants de Breckenridge appellent la ville Garbage, dû à leur phénomène plus ou moins étrange. Voilà, c'est un forum qui est tout chaud. Il a ouvert ses portes le 30 mars dernier. Au niveau des graphismes, on est à la fois dans le clair et le sombre. Eh bien, il y a un petit truc un peu original sur ce forum, puisque vous avez un petit bouton sur la gauche où vous pouvez faire jour-nuit sur le forum. Du coup, ben, vous pouvez... Alors, c'est dans les niveaux de gris et noir, et donc quand vous êtes en jour, eh bien, c'est plutôt gris clair. Et quand vous mettez en nuit, eh bien, le fond devient noir. Voilà. Et donc ici, ce sont des avatars réels. Vous pouvez créer un personnage parmi les trois groupes proposés, très simple. Vous avez tout d'abord le groupe des intelligents. Ce sont des humains pas trop cons, pas trop débiles, et ils voient qu'il se passe quelque chose de louche. Ils sont au courant pour les extraterrestres. Vous avez le groupe des vertébrés incapables. Alors, ce sont les humains qui ne remarquent rien. Ils vivent leur vie normale, tout simplement. Et vous avez enfin le groupe des skirs. Alors eux, ce sont les extraterrestres. On les appelle donc les skirs. Bons ou méchants, certains ont un rôle spécifique et d'autres non. Voilà, tout simplement. Au niveau des annexes, pas énormément de choses non plus à lire, parce que les groupes sont très courts. Hein. Ce que je viens de vous dire, c'est presque le descriptif de chaque groupe. Il y a un petit peu plus de texte, mais voilà, c'est vraiment très simple à lire. Il y a quand même une annexe qui s'appelle « Entrons dans le codex ». Ce sont donc les caractéristiques des extraterrestres, puisque vous pouvez faire un extraterrestre avec une caractéristique telle que la télékinésie. Et vous avez aussi un extraterrestre qui peut être télépathe, un guérisseur, un combattant ou tout simplement un extraterrestre qui n'a rien de spécifique, il est juste normal, tout simplement. Donc voilà, tout ça c'est dans cette annexe. Vous avez également, alors ça c'est souvent qu'il y a des FAQ sur les forums, c'est vrai que j'en parle pas, alors il faut lire le règlement et le contexte, mais il y a aussi les FAQ, les foires aux questions. Et là vous avez le maître du jeu qui met plein de choses sur ces FAQ, et notamment ici il y en a une où il y a plein de questions peut-être que vous posez, et vous pourrez voir sur la FAQ si la question que vous avez en tête est dedans. Il y a des intrigues qui seront à venir, parce que le forum est encore récent, il a 15 jours à peine, et les intrigues vont être mises en place par les maîtres du jeu. Vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà écrits par les membres, et puis il y a également un Discord qui va bientôt arriver. Voilà. Donc un forum qui a ouvert ses portes le 30 mars 2023, il y a 11 membres enregistrés, petite communauté, pas de ligne minimum d'écriture, et bien sûr il est vraiment ouvert à tout le monde, aussi bien aux débutants qu'aux confirmés. Ça s'appelle donc Garbage City. Pour aller sur le forum, il suffit de taper garbage-city.forumactif.com. Évidemment, tout ça est sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com. Vous avez le petit lien et le petit descriptif de ce forum. On passe à nouveau à la musique, et ensuite, Elodie, tu nous parles d'une BD ?
Oui, d'une BD un peu post-apo.
Ok. On écoute Cadavreski avec les résolutions, et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et maintenant, Elodie nous parle de BD.
Oui, d'une BD qui s'appelle Green Class, de Jérôme Hamon et David Taco. De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une classe de jeunes canadiens se retrouve immédiatement plongée en plein cauchemar. Un mystérieux virus s'est répandu, transformant peu à peu les humains en inquiétants monstres végétaux. L'armée a pris le contrôle du territoire, mis en quarantaine, forcé d'abandonner un des leurs. Cinq d'entre eux décident de se rebeller. Fin du monde ou pas, ils resteront maîtres de leur destin. Alors, Green Class, du coup, alors c'est bien ce que je voulais t'amener, la BD que j'ai oublié pour te montrer. Alors, c'est une BD un peu traditionnelle dans le sens, par rapport à l'épaisseur des BD que l'on voit. Souvent, je parle de BD assez conséquentes. Là, celle-là, elle est Il y a un nombre de pages un peu plus restreint, c'est de la BD un peu plus classique, quoi, on va dire. Le dessin, c'est un dessin, mi-réaliste, mi-BD, voilà. C'est assez, assez sombre quand même, puisqu'effectivement, on est dans un... Dans du post-apo, un peu... Alors, c'est pas des zombies. On va parler d'infectés aussi. Ça se rapproche presque un petit peu des hommes champignons de The Last of Us. Sauf que là, c'est plutôt... ils deviennent un peu des arbres, en fait. Le premier tome est vraiment très, très bon. Parce que même si c'est un thème... qui a été énormément abordé, hein, les zombies, les infectés, tout ça, dans d'autres livres, dans les séries, dans les films. Le premier tome arrive à sortir du lot quand même, parce que il y a des petites choses un peu originales qui sont bien pensées, avec des choix scénaristiques qui sont plutôt intelligents. Et il y a énormément d'action, en fait. C'est vrai qu'on va pas s'ennuyer. Il se passe énormément de choses dans ce premier tome. Et assez vite aussi, on va s'attacher à cette bande d'amis qui est assez complice et qui va essayer de s'en sortir. Et ça donne très envie après de lire la suite. Sans trop en dévoiler, dans le tome 3, l'histoire prend un sacré virage. Et on va tomber dans autre chose. J'en dis pas plus parce que je veux pas trop spoiler. Ça plaira à certains, ça plaira peut-être pas à d'autres. Il y aura toujours cette histoire d'infectés, mais il y aura un petit truc supplémentaire et on va comprendre en fait à quoi servent ces infectés, pourquoi ils sont là en fait. Mais voilà, alors c'est pénible parce que je peux pas en dire plus, mais je préfère quand même vous laisser découvrir si jamais vous voulez vous lancer dans cette BD-là. Il y a 4 tomes qui sont disponibles, le 5e sort là au mois de mai. Alors j'avoue que le tome 3 encore, effectivement, il y a ce virage dans l'histoire, mais ça reste encore intéressant. Là, j'ai lu le tome 4 tout juste hier, parce que je n'avais pas vu qu'il y avait un tome 4 qui était sorti. Je suis un peu dubitative, voilà. On va attendre le tome 5 pour voir ce qui se passe, mais je suis moins enthousiaste que les 3 premiers tomes.
Ok.
Voilà. Donc je vous laisse découvrir si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe et ce retournement de situation dans le tome 3.
Chaque tome amène à une suite quand même. Enfin, le tome
C'est l'histoire qui se poursuit. Hein.
D'accord. Je veux dire, si on lit un seul, on veut savoir la suite quand même.
Ah bah oui, on voudra savoir la suite.
D'accord. Ok.
Oui, on peut pas s'arrêter là.
Okay.
Et donc normalement, voilà, le tome 5, je crois, sort en mai. Et si jamais vous voulez les découvrir, ils sont donc à la médiathèque de Troyes. Voilà. Donc vous pouvez vous plonger dans cette histoire. Donc ça s'appelle Green Class de Jérôme Hamon et David Tacco.
Ok, on passe à la musique et ensuite on parlera des sorties ciné à Troyes cette semaine avec pas mal de films encore à l'affiche. Également l'actu tournage avec des petites choses plus ou moins attendues, on va dire. La petite rubrique cette semaine, c'est que sont-ils devenus, qu'est-il devenu cet acteur d'une série des années 2000? Bah oui, qu'est-ce qu'il est devenu? Mais on a un petit blind test là-dessus, comme d'habitude. Et puis Elodie, tu me parleras d'une série qui fait peur, et qui est véridique.
Oui.
C'est ça qui fait peur.
C'est une histoire vraie, oui. Et j'en avais déjà parlé, parce que j'avais parlé de la bande dessinée d'Amer.
D'accord. On écoute Ram Jam avec Black Betty et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore pas mal de films à l'affiche. Et puis comme c'est bientôt les vacances, il y a aussi des films d'animation. Vous avez tout d'abord la comédie 10 jours encore sans maman, réalisée par Ludovic Bernard avec Franck Dubosc et Horatica. Après son licenciement, Antoine, ancien DRH d'une grande enseigne de bricolage, a choisi de rester à la maison pour s'occuper de ses 4 enfants. Un nouveau travail qu'il effectue la plupart du temps seul, car sa femme Isabelle est très très occupée par sa nouvelle activité d'avocate. Depuis 2 ans, dans la famille Mercier, les rôles ont donc été clairement inversés et Antoine commence à de moins en moins tenir le coup face à l'énergie que lui demande sa petite famille. Voilà pourquoi 10 jours de vacances à la montagne s'annoncent comme une aubaine pour le père au foyer qu'il est devenu. Hélas, une affaire inespérée pour le cabinet d'Isabelle tombe du ciel. Elle n'a pas d'autre solution que de laisser Antoine partir 10 jours au ski seul avec les 4 enfants et surtout sans maman. Voilà, 10 jours encore sans maman, c'est à voir actuellement au CGR à Troyes. Vous avez le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, avec Chris Pine, Michel Rodriguez et René Jean Page. Un voleur beau gosse, une bande d'aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs transpose sur grand écran l'univers riche et l'esprit ludique du légendaire jeu de rôle à travers une aventure hilarante et pleine d'action. Voilà, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, c'est à voir actuellement au CGR. Tu ne l'as pas encore vu, tu vas le voir, Elodie ?
Oui.
Oui ?
Je pense, mais j'ai un peu peur.
Je ne sais pas quoi en penser. Voilà.
J'ai vraiment détesté celui qu'ils ont fait il y a déjà quelques années.
Ouais.
Il y a 20 ans.
Oui, oui. Ça a changé maintenant.
Avec Profion le méchant, mais ouais, non, je ne sais pas, on verra.
D'accord.
Les critiques sont bonnes, je crois.
Mais... Bah oui, c'est ça que je ne sais pas trop. Je ne sais pas. On verra. Vous n'avez qu'à aller le voir et vous nous le direz. Hein, vous pouvez bien sûr nous écrire hein, sur notre blog. Vous pouvez laisser un petit commentaire, par exemple. Vous avez le film Suzume, film d'animation réalisé par Makoto Shinkai. Ça se passe dans une petite ville paisible de Kyushu. Une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager à la recherche d'une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une porte délabrée trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée. Et d'autres portes s'ouvrent alors aux 4 coins du Japon, laissant passer toutes les catastrophes qu'elles renfermaient. L'homme est formel, toute porte ouverte doit être refermée. Suzume s'est égarée où se trouvent les étoiles, le crépuscule et l'aube, une voûte céleste où tous les temps se confondent. Guidée par des portes nimbées de mystère, elle entame un périple afin de toutes les refermer. Suzume, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez un autre film d'animation, La course aux œufs, réalisé par Gabriel Riva Palacio et Rodolfo Riva Palacio. Coco et Dina, un coq et une poule qui vivent au Mexique, viennent d'avoir 2 petits œufs d'or. Mais ceux-ci sont rapidement kidnappés par un grand chef proposant un menu à base de rares variétés d'œufs au cœur de l'Afrique. Les 2 parents entreprennent alors un périple à l'autre bout du monde pour sauver leurs enfants, aidés par leurs amis de la ferme et de la savane. La course aux œufs, c'est à voir également au CGR. Vous avez le film Les âmes sœurs, réalisé par André Téchiné avec Benjamin Voisin et Noémie Merlan. David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, est grièvement blessé dans une explosion. Rapatrié en France, il souffre d'amnésie et commence une longue convalescence sous le regard dévoué de sa sœur Jeanne. Dans la maison familiale des Pyrénées, entre montagne et lac, Jeanne tente de raviver sa mémoire, mais David ne paraît pas soucieux de se réconcilier avec celui qu'il était. Les âmes sœurs, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez encore du film d'animation avec les aventures de Ricky, réalisé par Meterang Tange et Benjamin Quabec. Ricky, un jeune moineau intrépide adopté par une famille de cigognes, est embarqué dans une aventure épique au cœur de l'Afrique. Accompagné de ses fidèles amis Olga, la chouette pygmée, et Kiki, la perruche disco, il se lance à la poursuite d'un joyau légendaire. Les aventures de Ricky, c'est à voir également au CGR. Il y a le film Les Complices, réalisé par Cécilia Rouault avec François Damiens, William Lebgill et Laura Felpin. Max, un impitoyable tueur à gages de 50 ans, découvre qu'il a un problème. Il s'évanouit désormais devant la moindre goutte de sang. Son avenir dans la profession étant compromis, il va devoir se reconvertir. Mais pas si simple quand sa seule compétence professionnelle est de tuer des gens. Il se fait aider par un couple de jeunes voisins, Karim et Stéphanie, qui n'imaginent pas un instant à qui ils ont affaire. Max s'attache malgré lui au jeune couple jusqu'à ce que son passé le rattrape. Les complices, c'est à voir actuellement également à Troyes au CGR. Il y a le film Une histoire d'amour, réalisé par Alexis Michalik avec Juliette Delacroix, Marika Soyer et Alexis Michalik, Katia et Justine tombent amoureuses, malgré la peur de l'engagement et le regard des autres. Elles décident de faire un enfant, laissant le hasard décider de qui le portera. Mais alors que Katia tombe enceinte, Justine la quitte soudainement. 12 ans plus tard, Justine est retournée à une vie rangée et Katia, qui a gardé l'enfant, apprend qu'elle est condamnée. Contrainte de trouver en urgence un tuteur pour sa fille, elle se tourne vers sa seule option, son frère William, écrivain cynique et désabusé. Une histoire d'amour, c'est à voir également au CGR en ce moment. Vous avez une avant-première, La vie pour de vrai, réalisée par Danny Boone, avec Danny Boone, Charlotte Gainsbourg et Kad Merad. Ce sera en avant-première le dimanche 16 avril à 17h55, toujours au CGR. Et puis on passe maintenant aux actus tournage. Tout d'abord, peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui adorent le monstre vert, Shrek numéro 5. Se précise. Et oui, alors que son petit partenaire adepte de l'épée a fait son retour en 2022 dans le Chapeauté 2, la dernière quête.
C'était génial.
Shrek n'a apparemment pas dit son dernier mot au cinéma. En pleine promotion de Super Mario Bros. Le film, Chris Meledandri a déclaré vouloir relancer la saga du célèbre Ogre Vert. Le patron des studios Illumination, également partenaire créatif de DreamWorks Animation, a aussi assuré avoir entamé les négociations avec le casting vocal original, qui est composé en Amérique donc de Mike Myers, Cameron Diaz pour Fiona et Eddie Murphy pour Lan, pour qu'il soit de nouveau donc de la partie. Chris Meledandri a expliqué à ce sujet que la distribution originale est un élément essentiel. Selon lui, les acteurs seraient très enthousiastes à l'idée de revenir. Interrogé par Etalk en janvier 2023, Eddie Murphy affirmait être totalement disponible pour prêter sa voix au fidèle acolyte de Shrek dans de nouvelles aventures. Voilà. Le patron des studios Illumination se dit même partant pour offrir un spin-off à Lan. Après 4 films sortis entre 2001 et 2010, qui ont rapporté près de 3 milliards de dollars de recettes mondiales, Shrek, Fiona et leur ami bavard semblent donc avoir de beaux jours devant eux au cinéma. Voilà, affaire à suivre pour Shrek 5. Et puis, nouvelle, je ne sais pas comment la prendre. Sex Intention, le film culte avec Sarah Michelle Gellar, va devenir une série. Oui. Donc Sex Intention, au départ, à l'origine, c'est une adaptation libre et modernisée du célèbre roman Les Liaisons Dangereuses. Dans ce film sorti sur les écrans en 1999, pas de costumes et de perruques façon Stephen Frears, mais une ambiance 90s au sein de la haute bourgeoisie de Manhattan. L'histoire reste sensiblement la même puisqu'il est question de Sébastien Valmont, fils de bonne famille, qui ne cesse de se lancer des défis avec sa demi-sœur Catherine Merteuil autour de leurs conquêtes respectives. Un jour, tous les deux font un pari pour le moins pervers. Si Sébastien parvient à séduire l'innocente Annette Hargrove, Catherine s'offrira à lui. En cas d'échec, elle récupérera sa voiture. Mais évidemment, Sébastien va réellement s'éprendre d'Annette et se retrouver dans une situation bien délicate. Alors, Sex Intention est encore dans les esprits du jeune public des années 90, en grande partie grâce à son casting, avec Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon ou encore Selma Blair. Dans les premiers rôles, la production était parvenue à réunir deux jeunes stars américaines. La popularité du film semble toujours suffisamment importante pour qu'Amazon s'y intéresse. En effet, le service de streaming voudrait développer une série de 8 épisodes adaptés du film directement. La production devrait d'ailleurs débuter dès le mois de juin à Toronto. Le média américain précise qu'à la base, le projet viendrait de Freevee, service de streaming gratuit d'Amazon, mais qu'il devrait finalement être récupéré par la version payante Prime Video. Dans cette nouvelle version de Sex Intention, il y aurait à nouveau quelques changements notables par rapport à l'œuvre d'origine. Le show suivrait un frère et sa demi-sœur, prêts à tout pour rester au sommet de la hiérarchie des fraternités et sororiétés de leur université d'élite. Leur vie va cependant changer après un bizutage qui tourne mal. Pour garder leur pouvoir et préserver leur réputation, ils iront jusqu'à tenter de séduire la fille du vice-président des États-Unis. Rien que ça, voilà. Alors, on ne sait pas encore qui seront les nouveaux visages de cette version sérielle de Sex Intention, mais de nouvelles informations devraient survenir dans les prochaines semaines avec le début de la production.
Parce que le casting est important, quoi.
Oui, tout à fait.
Dans le film, c'était ça qui faisait tout, quoi.
Oui, oui, c'était un chouette casting. Puis même, voilà, ça se regardait bien, la musique était cool.
Oui, la musique, bah, ça, voilà. C'était,
c'était
une autre époque.
Voilà, c'est notre époque, hein, c'est notre jeunesse. Hein. Voilà, en tout cas, affaire à suivre donc, pour cette série Sex Intention. C'est pas ce que ça peut donner, je ne sais pas. À voir. Il y a 8 épisodes, je me dis, bon, s'ils s'arrêtent là.
Ouais, ils avaient fait Scream en série, c'était pas terrible. Hein.
Bon, on verra. Voilà. On arrive donc à notre petite rubrique « Que sont-ils devenus ?» et « Qu'est-il devenu qu'est-il devenu, cet acteur de cette série des années 2000 ?» Ben oui, mais pour le deviner, eh bien, il faut simplement écouter et deviner la musique du générique de cette série des années 2000 qui faisait comme ça.
Je connais ça. Mais j'arrive pas à me souvenir.
C'est américain.
Ouais, ouais. En même temps, je sais pas si je l'ai regardé. Le générique me dit quelque chose.
Il y a 9 saisons.
Oula.
Voilà, voilà. Tu ne l'as pas trouvé.
Non.
Et
là,
si je te dis The Office.
Ah oui, mais j'ai pas regardé.
Tu n'as pas regardé, pas moi non plus, tu vois.
Non, non.
j'ai peut-être un petit peu vu quelques morceaux d'épisodes, je dirais.
Toi, je connaissais le générique.
C'était assez, assez particulier. Alors bon, The Office, c'est une sitcom américaine.
Oui, parce qu'il y a 2 versions, une version anglaise aussi.
Oui, tout à fait. Alors là, je parle de la version américaine. C'est une sitcom américaine de 9 saisons, dont 201 épisodes quand même, et qui est une adaptation de la série télévisée britannique du même nom. Et donc la série va décrire la vie quotidienne d'employés de bureau de la filiale fictive de la Dunder Mifflin Paper Company à Scranton en Pennsylvanie. Pour simuler l'aspect d'un documentaire réel, celui-ci est filmé dans une configuration sans public de studio ni réenregistré, dans de véritables immeubles, avec un montage alternant entre scènes dynamiques, d'ailleurs ces caméras à l'épaule,
ouais, j'aime pas trop,
avec
moi,
des zooms, genre, des plans qui sont pas stables, et puis des confessions des personnages avec un plan fixe face à la caméra. C'était assez particulier quand
oui,
même.
Oui, c'est très particulier, je suis pas fan.
Je suis pas fan non plus.
Après, je pense qu'il faut peut-être s'y mettre, parce que j'avais parlé de Succession. Succession, c'est un peu comme ça aussi, ça fait un peu documentaire.
Bon, voilà. Donc, en tout cas, The Office, qui a reçu quand même, alors même si ça avait commencé un petit peu doucement, en fait, les saisons ont vraiment séduit le public après. Pas vraiment au début, mais après. Et ils ont reçu vraiment énormément de récompenses.
Bah, c'est devenu culte, hein, comme série.
Bah oui, oui, tout à fait. Et en France, ben, en fait, la série a été diffusée entre 2007 et 2014. C'était sur Canal+. Après, ça a été... alors, je ne sais pas si c'est encore sur la plateforme Amazon Prime Video, mais en tout cas, maintenant, c'est sur Netflix.
Oui, c'est sur Netflix. Ouais.
Voilà. Voilà, donc, je vais parler de celui qui campait le rôle de Michael Scott, à savoir Steve Carell, qui a aujourd'hui 60 ans. Et oui.
Ah oui.
Et Steve Carell, il s'est pas fait connaître avec The Office, en fait. Il avait
avec
quand même
40 ans, toujours plus haut, non?
Oui.
Enfin, entre autres. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait énormément de films.
Il a fait énormément de films, mais c'est vrai que c'est surtout dans le côté comique. Alors, pour ses débuts, il a vraiment commencé dans le théâtre, et avant ça, il était facteur. Rien à voir. Mais il a vraiment eu une compagnie de théâtre et surtout une troupe de théâtre d'impro. Qui est assez réputée aux États-Unis, qui s'appelle la Second City, qui a compté parmi ses membres Bill Murray, Dan Aykroyd, oui. Eugène Levy, Castellaneta et Mike Myers.
Ouais, des gens pas connus.
Non, pas du tout. Voilà. Et donc, il a vraiment commencé par le théâtre, et puis ensuite, il est passé à la télévision et au cinéma. Et ses débuts dans le cinéma, c'était dans La Petite Arnaqueuse, John Hughes. Et puis, il a fait également, je n'arrive plus à retrouver sur mes fiches, ah oui, il a fait des apparitions comiques à la télévision dans le Daily Show. Alors, ça, c'est plus connu aux États-Unis. Mais voilà, si vous connaissez, il a fait des petites...
Moi, je l'adore dans Crazy Stupid Love,
voilà,
qui est sur Netflix. J'adore ce film. Et j'ai regardé 40 ans, toujours plus sourd, il n'y a pas longtemps, parce que je ne l'avais jamais vu. On en avait beaucoup entendu parler quand le film était sorti. Et bon, je ne peux pas être hyper fan. Mais...
C'était en 2005, 40 ans et toujours plus sourd. Il a joué également dans Bruce Tout-Puissant.
Oui.
En 2003, dans Ma sorcière bien-aimée en 2005, quand ils ont refait le film.
De Jean-Pierre.
Et dans Little Miss Sunshine, okay, qui est super film quand même. Il faut le noter.
Extraordinaire.
Et puis en Amérique, c'est lui qui fait la voix de Gru dans Moi moche et méchant.
Ah.
Et oui. Donc tu l'as dit dans Crazy Stupid Love, où il joue également dedans. Et puis au niveau des séries télé, alors oui, il a joué pendant quand même... alors juste 7 saisons, il s'est arrêté à la 7e saison, je crois qu'il y en a 9 de The Office que je viens de dire.
Oui.
Et il n'est pas allé jusqu'au bout. Donc je pense que c'est aussi à cause de son départ que la série est peut-être un petit peu tombée. Il est parti à la fin de la saison 7, voilà. Et bah oui, il continue toujours son métier de comédien, hein.
J'ai parlé de lui il n'y a pas longtemps dans une série, j'ai oublié le nom, sur Disney+, une série où il joue un psy qui est enlevé par un tueur. Tu l'as pas noté, ça?
Je sais que là, il a joué dans Space Force.
Force, qui est passé sur Netflix.
C'est celui-là que tu...
Non.
Non, pas celui-là.
Non. Je recherche, je sais plus comment s'appelle la série sur Disney+.
Je ne l'ai pas sur mes fiches.
Mais j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps.
The Patient?
Oui, c'est ça.
C'est ça?
The Patient.
The Patient. Ah, je l'avais. et puis bon,
très bien.
Il a été scénariste, créateur, réalisateur, également producteur. Et il a également produit, réalisé des épisodes de The Office. Il fait beaucoup de choses, hein, il a joué dans vraiment beaucoup de films. Et cette année au cinéma, on le verra en juin, je crois que ça sort en juin, dans Asteroid City de Wes Anderson.
Ah oui, ça a l'air dingue.
Enfin, j'adore l'image.
Après, on aime ou on n'aime pas. Ce réalisateur-là, mais là, il y a le casting est encore grandiose et ça promet.
Voilà, tout simplement. Voilà en ce qui concerne donc de The Office. On passe un petit peu à la musique et puis ensuite, Elodie, on finira cette émission avec toi et avec une série qui fait peur. Et
qui n'est pas pour tout le monde.
Qui est réelle.
Très angoissante.
Voilà, et qui doit être bien, je pense.
Oui.
On écoute... Bubbler avec Song 2 et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans la fin, suite et fin de l'émission Loading. Elodie nous parle d'une série.
Et on va parler de la série donc d'Amer, le parcours du cannibale de Milwaukee, l'un des tueurs en série les plus connus aux États-Unis, de son enfance difficile à sa condamnation en 1992 et comment l'incompétence et l'apathie de la police lui ont permis de poursuivre ses crimes durant plusieurs années. Donc il y a une saison de 10 épisodes disponible sur Netflix. J'ai oublié de noter le nom de l'acteur très connu qui joue dans American Horror Story notamment, bref, qui est incroyable en Dahmer. Alors Dahmer, j'en avais déjà parlé puisqu'il y a une bande dessinée qui s'appelle Mon ami Dahmer. C'est quelqu'un qui était à l'école avec Dahmer, qui a été un peu ami avec lui et qui raconte comment lui en tout cas il a vu Dahmer à l'école, comment ça se passait, etc. Je vous conseille vivement la bande dessinée si vous n'arrivez pas à regarder la série, parce que voilà, la bande dessinée, elle permet peut-être de prendre un peu plus de recul, où il explique notamment que Dahmer, avant de devenir le tueur en série que l'on connaît, il avait déjà des pulsions étranges qu'il essayait de calmer en buvant de l'alcool. A priori, quand il était au lycée, il sentait énormément l'alcool. Et lui, d'ailleurs, trouvait dingue que les professeurs ne se soient pas inquiétés plus que ça, parce que vraiment, enfin, ça se voyait qu'il buvait, quoi. Et personne n'est intervenu. Donc, il est issu d'une famille où les parents ont divorcé. C'était un peu compliqué. Il a été un peu laissé à lui-même à une époque. Et là, dans la série, on va parler un petit peu de son enfance, mais on va surtout voir comment il procédait pour ses crimes. Et même si on ne voit pas tout, la série est quand même très dure à regarder. Moi, je pense que la BD m'a aidée. Et la BD, à un moment, des fois, j'avais un peu de compassion pour lui. Parce que j'avais l'impression que, en tout cas, dans ce qui était raconté, qu'il avait... il savait que ce qu'il faisait, c'était pas bien et qu'il essayait de surmonter ça. Sauf qu'après, à la fin, il y avait des notes qui expliquaient exactement ce qu'il avait fait. J'ai plus du tout de compassion pour lui. parce que voilà, bon, après, clairement, il avait un problème dans sa tête. Et il a fait des choses horribles. Il a tué énormément d'hommes. Je ne sais plus combien, mais vraiment, vraiment énormément. Puis, il gardait des choses dans ses placards, dans son frigo. Enfin, voilà, c'était assez hard. Là, on voit du coup comment sa voisine n'a pas arrêté d'appeler la police parce qu'il y avait des odeurs bizarres quand même qui venaient de chez lui et que la police n'est jamais vraiment intervenue. Mmh. Et même à un moment où il avait drogué un jeune homme puisqu'il était homosexuel et qui s'attaquait principalement à des hommes noirs, là, à un moment, la police est intervenue, et en fait, ils auraient peut-être pu l'arrêter à ce moment-là, et on voit que, non, il arrive à s'en sortir. Bref.
Ne raconte pas tout.
Non, je ne raconte pas tout. En tout cas, voilà, c'est une série à ne pas mettre entre toutes les mains, mais c'est très prenant, en tout cas.
Ok. Ça se passe sur Netflix, c'est ça ?
C'est sur Netflix.
D'amère, ok, très bien. Notre émission touche à sa fin, nous on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec des invités même. D'ici là, portez-vous bien, ciao, ciao, bye bye.
Ciao.